de l'information et de la communication, toutes les technologies du numérique. Et donc ce virtuel repris par la technique, il engage bien sûr des aspects sociétaux, des aspects industriels, mais il engage aussi notre culture visuelle. Et plus globalement, il engage aussi notre culture perceptive. Et c'est justement là toute la question que soulèvent les industries de la simulation. Et donc pour aborder le virtuel en rapport avec ces industries de la simulation, je vais me focaliser sur un cas qui sera celui du jeu vidéo et de ses images. Et je vais procéder en fait selon deux versants, donc deux parties. Donc tout d'abord avec un versant phénoménologique, donc qui va se situer au niveau de la perception, où d'ailleurs il sera d'abord question du stéréoscope avant de parler du jeu vidéo. Et ensuite, j'irai vers un versant plus concret et esthétique, c'est-à-dire qui va interroger les composantes et la spécificité de ces images. Donc on peut commencer déjà par dire de manière très générale que ces images du jeu vidéo, elles créent un point de vue ou une vue subjective en première ou en troisième personne, donc ça dépend des cas. Mais surtout, ce qu'elles créent de nouveau, c'est un déplacement dans l'image. C'est-à-dire qu'on n'a plus un point de vue extérieur à l'image, un point de vue sur elle, mais on a un point de connexion et un point de déplacement dans l'image.
Je peux projeter quelque chose là ?
Après.
Après, d'accord.
Et donc ces deux approches, donc phénoménologique d'abord, puis esthétique ensuite, ce qu'elles ont en commun, c'est en fait de ne pas aborder la question des industries de la simulation à partir des stimuli sensoriels. Donc pourquoi est-ce qu'il est important de faire un pas de côté par rapport à une approche qui se situerait du côté des stimuli sensoriels? Parce qu'il semble que ce genre d'approche, en tout cas philosophiquement, elle risque de nous enferrer dans une double impasse. Parce que si on pose le problème de la manière suivante, en disant que les industries de la simulation et leur production de stimuli visuels, auditifs, tactiles, kinesthésiques ou même olfactifs, donc que si cette production de stimuli enrichit l'espace imaginaire jusqu'à lui donner finalement toujours plus de consistance et donc toujours plus d'extériorité, finalement ensuite on a deux options qui sont possibles. Donc soit cette déréalisation par les stimuli artificiels va nous faire perdre la réalité, soit nous perdons l'imagination qui va se retrouver trop saturée de stimuli pour pouvoir encore exercer ses puissances imaginatives propres. Et ce double constat sur l'état du virtuel, il n'est pas du tout faux, c'est pas le but, c'est pas de dire que c'est faux, mais c'est de dire qu'on voit mal comment ils vont permettre de poursuivre l'analyse et qu'en fait ils semblent plutôt la fermer. Et que c'est en ce sens qu'on peut donc les qualifier d'impasse, donc face à laquelle je voudrais vous proposer ici une double approche qui va donc d'abord être phénoménologique puis esthétique. Donc cette première partie phénoménologique, en fait, elle va aborder le virtuel comme un certain rapport entre la perception et l'imagination, comme un cas de mélange. Et la perception artificielle du titre de l'intervention, ça désigne justement cette autre manière d'aborder le virtuel, cette approche phénoménologique. Donc l'approche phénoménologique, elle s'appuie sur des textes de Edmund Husserl, donc le philosophe Edmund Husserl, et plus précisément sur les distinctions que Husserl opère entre une perception qui est dite originaire, c'est-à-dire tout ce qui concerne le maintenant actuel, l'instant présent, donc la distinction entre cette perception originaire et une perception modifiée, c'est-à-dire tout simplement tout ce qui concerne le souvenir et l'imagination. Et ici, ce qui va nous intéresser, c'est plus particulièrement l'imagination. Et cette approche, c'est cette approche qui va nous permettre d'aborder le virtuel non plus à partir du niveau des stimuli sensoriels, mais bien plutôt comme un certain rapport entre la perception et l'imagination, et un rapport qui va varier selon les expériences et les objets mis en jeu dans ces expériences. Alors, je précise le problème, c'est que donc Husserl distingue deux types de perception, donc perception originaire et perception modifiée. Mais au sein de l'imagination elle-même, ou de la conscience d'image, comme il l'appelle, Husserl distingue aussi deux types. Donc le premier type, c'est ce qu'il appelle la conscience d'image physique. Alors la conscience d'image physique, elle repose sur la perception d'un objet matériel, donc ça peut être une statue, un tableau, une photographie, la pellicule d'un film. Et cette perception d'un objet matériel, elle représente un autre objet en image. Donc dans cette conscience d'image physique, on a un objet effectivement réel qui appartient au champ de la perception et qui va faire fonction de stimulateur de l'appréhension en image. Et le second type, donc, que Husserl distingue du premier, le second type de conscience d'image, c'est celle qui s'appelle la conscience d'image libre, ou que Husserl appelle aussi la fantasia, et qui, donc, contrairement à la conscience d'image physique, se déploie quant à elle dans un champ qui lui est propre, dans un champ qui est séparé du champ perceptif actuel. Donc, par exemple, le centaure que j'imagine, il n'est pas physiquement situé dans la pièce où je me situe, c'est-à-dire qu'il n'est pas pris dans un cadre, contrairement à la statue de centaure, ou au tableau centaure, ou au film avec un personnage de centaure. Donc, pour se soutenir et se déployer, cette conscience d'image libre ou cette fantasia, elle n'a pas besoin d'un support sensoriel. Son champ, donc le champ de la fantasia, il est complètement séparé du champ perceptif. Donc, pour résumer cette distinction, la conscience d'image physique, elle a un stimulateur dans le champ perceptif, alors que la conscience d'image libre ou fantasia, elle est isolée, elle est séparée et elle est indépendante de ce champ perceptif. Alors, une fois cette distinction établie, le virtuel, si on veut entendre par là une certaine production d'image, donc celle des industries de la simulation, donc le virtuel, bah, il va justement interroger ce schéma phénoménologique husserlien que je viens d'exposer. Parce qu'en effet, donc, cette distinction, enfin ces deux distinctions, elles peuvent être soumises à des complications, elles peuvent être soumises à des brouillages, et elles le sont d'ailleurs déjà chez Husserl avec certaines expériences. Et il me semble que si on veut comprendre l'âge de l'image où nous nous situons aujourd'hui, donc avec toutes ces productions des industries de la simulation, bah, il faut le mettre en regard de ces expériences que l'on trouve déjà décrites chez Husserl, pour comprendre justement ce qu'il y a de nouveau dans notre âge de l'image à nous. Parce qu'on a affaire donc, chez Husserl et aujourd'hui à des expériences qui brouillent cette distinction de principe entre le champ perceptif et le champ de l'imagination. Alors cette distinction entre champ perceptif et le champ de l'imagination, donc, c'est avant tout une affaire de montage spatial, puisque, donc, comme on l'a vu, dans le cas de la conscience d'image physique, il y a un cadre, donc du tableau ou l'écran du film, mais dans tous les cas, il y a un cadre qui va dessiner le raccord et donc aussi la ligne de séparation entre le champ perceptif et le champ de la conscience d'image. Alors que dans la fantasia ou la conscience d'image libre, ce montage spatial, il n'est pas absent, mais il est beaucoup plus diffus puisque justement il n'y a plus de cadre. Et quand Husserl va déployer des cas limites qui vont brouiller cette distinction donc, entre perception et conscience d'image et aussi entre les deux types de la conscience d'image, et bien finalement c'est toute la question du virtuel qui va entrer en jeu. Et la question que pose le virtuel dans cette approche phénoménologique, c'est la suivante, et c'est aussi une question de montage spatial. Que se passe-t-il quand le conflit entre la perception et le champ fictif de l'imagination n'est plus perceptible ? Que se passe-t-il quand il y a des mélanges entre ces deux types de conscience d'image que Husserl prend pourtant bien soin de distinguer ? Alors, en explorant ces questions, en fait, nous sommes très proches des nouveaux types de perception et de la perception artificielle qui se développent dans notre culture perceptive moderne et avec les industries de la simulation. Et le cas limite qui nous rapproche le plus de ces questionnements actuels, ben c'est justement celui du mélange entre ces deux types de conscience d'image qui, par contre-coup, provoque également un mélange entre le champ perceptif et le champ de l'imagination. Et Husserl étudie un cas qui est d'autant plus intéressant qu'il est très proche, en fait, du statut du jeu vidéo, puisqu'il va mobiliser un objet qui est issu de la technique, qui produit des images et qui, en plus, n'obéit pas à proprement parler à une visée artistique, donc il s'agit justement du stéréoscope. Et ce stéréoscope, donc il fait partie chez Husserl de toute une série de cas qui interrogent en fait l'illusion perceptive, donc on trouve aussi par exemple les lunettes déformantes, le musée de cire, les poupées automates ou même l'absorption de santonine qui va rendre le champ de vision complètement jaune. Mais avec le stéréoscope, justement, avec cet objet particulier, c'est une autre question aussi que Husserl fait entrer en jeu, puisque ce cas va dépasser la simple illusion perceptive. Et si on considère d'un peu plus près le dispositif du stéréoscope, on se rend assez vite compte qu'il est finalement très proche des industries de la simulation. Donc, il se situe dans la lignée dont ce qu'on pourrait dire donc des jouets philosophiques qui vont permettre aux philosophes d'interroger les déformations de la perception. Mais ce qui est surtout intéressant ici, c'est que donc le stéréoscope, c'est un dispositif technique qui affiche une image, donc qui fonctionne avec deux photographies ou deux dessins et un système de lentilles. Et surtout, c'était un objet qui était très répandu dans les salons bourgeois donc de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Et on voit donc que ce type de dispositif est très proche, finalement, de celui de la console de jeux vidéo, par exemple. Même si, évidemment, on a des différences. Et en l'occurrence, même si les images du stéréoscope, elles sont fixes et non pas en mouvement comme les images du jeu vidéo. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'avec le stéréoscope, on a toutefois déjà affaire à une image qui n'est pas simplement du visuel fixe, parce que les images du stéréoscope, elles engagent déjà une posture du corps qui est très particulière, donc un peu courbée pour regarder dans ses lentilles. Et que tout se passe également comme si ce type d'image qui est en profondeur, avec cette profusion de détails, une image en relief et qui est illuminée de l'intérieur. Donc tout se passe comme si cette image, elle appelait déjà finalement le mouvement et le toucher, une sensation tactile. Et donc le stéréoscope, ça va justement être l'occasion pour Husserl de mener une hypothèse de pensée, qui est celle de la perception artificielle. Alors cette expérience de pensée, Husserl la présente en deux fois, en deux temps. Mais pour comprendre ce qu'il essaye de faire vraiment, il faut citer un passage où le stéréoscope intervient encore comme dans le simple cadre de l'illusion perceptive. Donc c'est dans de la synthèse passive, donc je cite Husserl, nous regardons par exemple à travers un stéréoscope la main appuyée sur la table. Nous savons par là et aussi par l'ensemble de la connexion de perception passée que nous sommes dans une petite pièce et non pas devant une cascade fleurie comme ce que montre l'image du stéréoscope. Alors, ce qu'on voit donc là déjà dans cet exemple, c'est que même si les lentilles, le boîtier, qui était assez imposant quand même à l'époque, constituent un cadre et devraient donc empêcher toute confusion entre cette image du stéréoscope, donc entre le champ perceptif et le champ de l'imagination, mais pourtant, l'image du stéréoscope, elle est telle qu'il faut quand même faire appel à la perception tactile de la main appuyée sur la table et au souvenir immédiat de la pièce dans laquelle on se situe, pour rétablir la séparation entre conscience d'image et perception. Et dans l'expérience de pensée que va présenter Husserl, donc le stéréoscope ne se présente plus dans ce simple cadre de l'illusion perceptive, mais Husserl, à partir de cet objet, va au contraire essayer de construire une véritable hallucination visuelle. Alors cette expérience de pensée, cette fois, elle se situe dans l'ouvrage Fantasia, conscience d'image, souvenir. Donc elle est en deux temps, le premier temps c'est celui-ci. Nous voyons dans le stéréoscope quelques apparences impressionnelles, mais sans prêter attention à ce qui appartient à la perception du boîtier, etc. Alors, comment faire oublier le boîtier ? Donc, Husserl poursuit son hypothèse de pensée un peu plus loin. Donc, admettons que dans un espace complètement obscurci, nous regardions à travers un stéréoscope et que, hors du monde de l'objet illusoire, nous ne voyons rien du monde effectivement réel et que l'attention soit détournée des autres champs sensibles, en particulier du champ tactile, qu'en tout cas, rien ne soit là qui puisse attester en perception de cette image comme d'une image trompeuse. Donc, dans cette expérience de pensée donc, qui se présente en deux temps, Husserl cherche à produire une hallucination qui n'est pas à comprendre comme une déformation de la conscience, mais comme une construction d'expérience à partir du stéréoscope. Et qu'est-ce qui se joue en fait plus précisément dans cette expérience ? Qu'est-ce qui peut nous intéresser ici ? Qu'est-ce qui se joue ? C'est justement le mélange entre les deux types de conscience d'image que je vous ai présentés au début, entre la conscience d'image physique et la fantasia. Et à la base de cette expérience, il y a donc l'image très particulière du stéréoscope, son boîtier dans l'environnement présent, dans la pièce, mais il y a aussi la particularité de cette image stéréoscopique, sa profondeur, son relief, ses détails, qui doivent, en fait, selon Husserl, qui doivent pouvoir faire glisser la conscience d'image physique vers un champ de fantasia complètement séparé du champ perceptif, si, toujours selon Husserl, on parvient à dissimuler le boîtier, à maîtriser les autres sens, notamment tactiles, et à éloigner aussi les souvenirs immédiats de la pièce où on se trouve. Donc voilà l'expérience de pensée, et si j'ai convoqué ces textes de Husserl sur le stéréoscope, c'est parce qu'il me semble que les images du jeu vidéo, elles se présentent finalement comme un véritable prolongement et comme l'actualisation de cette expérience de pensée. Les images du jeu vidéo, finalement, elles se présentent comme l'actualisation de ce mélange entre les deux types de conscience d'image. Ces images, elles se présentent comme l'actualisation d'un nouveau type d'attention qu'on pourrait qualifier d'attention disjointe. C'est-à-dire qu'avec l'image de jeu vidéo, on retrouve le même montage spatial qu'avec le stéréoscope. C'est-à-dire qu'on a un objet technique qui produit des images, qui se trouve dans un salon ou dans une chambre, qui engage une certaine posture du corps. Donc là, en l'occurrence, avec les consoles de jeux vidéo, c'est plutôt une posture assise. Mais avec les images du jeu vidéo, ce qui change, ce qui en fait le prolongement de l'expérience de pensée, c'est qu'il n'est pas besoin, donc pour glisser de la conscience d'image physique vers la fantasia, il n'est pas besoin d'un champ séparé du champ perceptif. Par exemple, il n'y a pas besoin de dissimuler le boîtier ni l'espace environnant où on se trouve. Il n'est pas besoin, par exemple, d'être dans l'obscurité, comme le conseiller Husserl pour son expérience de pensée. Au contraire, on pourrait dire que dans le jeu vidéo, en fait, nous sommes en contact permanent avec le dispositif lui-même. On est en contact permanent avec la manette, avec la console, avec la possibilité de sauvegarder des données, avec ces données sauvegardées. Et pourtant, nous ne sommes plus dans le cas d'une illusion perceptive. Nous sommes dans le cas d'une perception artificielle. C'est-à-dire que nous sommes dans le cas d'une conscience d'image physique qui a autant d'indépendance envers le champ perceptif que la fantasia. Et nous sommes donc dans un cas de mélange. Et si ce mélange il est possible sans respecter les conditions que préconisait Husserl pour le stéréoscope, bah c'est justement parce qu'il s'agit d'images en mouvement dans lesquelles un mouvement est possible. Des images en mouvement dans lesquelles un point de connexion peut se déployer et se déplacer. Donc ça, c'était donc la première partie donc pour aborder le virtuel, comme un cas de mélange, comme un certain rapport entre perception et imagination. Et j'en viens maintenant au second aspect, qui est l'approche esthétique. Et cette approche esthétique, elle va se pencher sur les composantes de ces images de jeux vidéo. Et là, je voudrais dire qu'avec le jeu vidéo, on assimile assez souvent le virtuel à la déréalisation. Et là, je vais prendre un exemple qui se situe au confluent des images de jeux vidéo et des images de guerre, mais ça pourrait aussi valoir pour le sport, même si là, je n'aurai pas le temps de le déployer. Donc, je vais prendre un exemple qui se situe au confluent des images de jeux vidéo et des images de guerre pour montrer finalement que cette identification entre jeux vidéo virtuel et déréalisation, elle est beaucoup trop rapide. Alors tout d'abord, on vient de le voir avec la première approche phénoménologique. Le virtuel, c'est un cas de mélange, c'est une complication de l'imagination et également une complication du rapport entre perception et imagination et une complication qui produit ce qu'on pourrait appeler une attention clivée ou une attention disjointe et non plus une illusion perceptive. Et d'autre part, il me semble que cette identification du jeu vidéo et du virtuel avec la déréalisation, ça met finalement de côté toute la dimension de la matérialité de ces images, les composantes de ces images. Donc le rapport entre le jeu vidéo ou les industries de la simulation et la guerre, il se déploie selon deux aspects, donc ils seront deux sous-parties de cette partie. Et ces deux aspects, ce sont deux aspects du virtuel, de ce qu'on appelle le virtuel. Donc ce premier aspect du virtuel, ce sont des images de synthèse, donc des images générées par ordinateur, qui travaillent le réel. Donc par exemple, ce sont des images d'environnement virtuel qui doivent préparer les soldats à la guerre. Donc par exemple, il y a un environnement de réalité virtuelle qui s'appelle Virtual Iraq, ça c'est pour soigner les soldats qui reviennent de la guerre. Mais à partir d'un moteur graphique de Virtual Battle Space 2, on construit un environnement de réalité virtuelle qui doit préparer les soldats à la guerre. Et il existe également donc, un environnement de réalité virtuelle qui s'appelle Virtual Iraq, qui doit soigner les soldats qui reviennent de guerre et qui souffrent de stress post-traumatique. Donc ça, c'est le premier aspect du virtuel, c'est l'image de synthèse. Et il y a un second aspect du virtuel, qui sont cette fois des images prises sur le réel, où on pense percevoir en fait, des effets directs du jeu vidéo. Par exemple, ce sont des images de conflits, dont on va dire que l'attitude des soldats, par exemple, eh bien, finalement, elle est celle de joueurs avec toute une déréalisation de la violence et toute une perte de réalité du conflit. Donc, ce sont les deux aspects du virtuel que je vais aborder. Donc, ce premier aspect, il présente un rapport entre le virtuel, les industries de la simulation et la guerre. Et je voudrais montrer que ce sont des images de synthèse donc, qui travaillent donc, le réel, mais sans qu'on puisse établir pour autant une ligne de causalité directe. Alors, l'exemple qui illustre ce premier aspect du virtuel, je le trouve dans le travail du cinéaste allemand qui s'appelle Harun Farocki. Donc, Harun Farocki qui a beaucoup travaillé sur les rapports entre les dispositifs techniques automatisés, donc que ce soit ceux qu'on trouve dans la guerre, mais aussi dans l'industrie, ou bien tout ce qui concerne la vidéosurveillance. Donc, il a beaucoup travaillé sur ces rapports entre dispositifs techniques automatisés et l'humain, la perception humaine. Et donc la série de 4 films qui va m'intéresser tout particulièrement pour parler de ce premier aspect du virtuel, elle s'intitule Serious Games. Et à travers cette série de 4 films, Farocki cherche à étudier et à déconstruire aussi un état de fait qui est le lien entre les images de synthèse et l'armée, et tout le contexte de leur fabrication et de leur utilisation, mais aussi de façon plus générale, tous les jeux de rôle finalement qui interviennent autour de la guerre, donc qui la préparent, ou qui interviennent après la guerre pour soigner ses effets donc dans le traitement du stress post-traumatique des soldats. Donc ces images de synthèse, il faut, si on parle d'Harun Farocki, il faut d'emblée les mettre en rapport avec d'autres images et avec une autre guerre, puisque là, la guerre en question, c'est la guerre d'Irak. Mais donc, il faut d'emblée les mettre en rapport avec d'autres images et une autre guerre, qui est la première guerre du Golfe en 1991. Donc date à laquelle on a vu apparaître deux nouveaux types d'images, deux nouveaux types de plans. Donc le premier type de plan, ces nouveaux plans, ils frappaient donc par leur abstraction, puisque les médias ne diffusaient pratiquement aucune image de combat, et ce qui d'ailleurs a fait naître en fait la mise en rapport de ces images avec les images du jeu vidéo. Alors ce premier type de plan, il provenait de caméras installées à bord d'un hélicoptère ou de drones, qui montrait une portion du terrain avec au centre de l'image un réticule de visée. Donc ça, c'est le premier type de plan qui apparaît à cette époque. Et le second type de plan, il provenait de caméras installées sur des missiles, sur des bombes volantes, qui donnaient à voir la cible en vue subjective jusqu'à ce que l'image explose au moment de l'impact. Alors Farocki propose une double qualification pour ces deux types de plans. Il nous dit que ce sont des images opératoires et des phantom shots. Alors, des images opératoires parce que, selon Farocki, ce sont des images qui sont issues de processus techniques, c'est-à-dire des images qui n'ont pas pour but d'informer ni de divertir. Et ce sont des phantom shots parce que ces deux types d'images, ils ne nécessitent pas de prise de vue au sens où ces images ou ces plans, eh bien, ils peuvent exister sans le corps d'un opérateur. Alors Farocki a travaillé sur ces deux types d'images dans une série de films qui s'appelle Auge Machine, donc entre les années 2000 et 2003. Mais ces images de simulation, donc ces images de synthèse qui m'intéressent plus particulièrement ici et sur lesquelles travaillent les quatre films de la série des Serious Games, eh bien, ce sont en quelque sorte la deuxième génération de cette image opératoire et du phantom shot. Et cette nouvelle génération de l'image opératoire et du phantom shot, elle touche à l'image de surveillance, elle touche au téléguidage qui vont construire en quelque sorte un point de vue impossible de la guerre d'une part, et d'autre part, cette nouvelle génération de l'image opératoire et du phantom shot, elle touche aussi avec les images de synthèse à tout problème de la caméra virtuelle, donc une caméra produite par un programme informatique, et ce qui propose en fait un point de vue imaginaire de la guerre. Donc un point de vue impossible de la guerre et un point de vue imaginaire de la guerre d'autre part. Et donc si le point de vue d'Harun Farocki est intéressant sur ce premier aspect du virtuel, c'est justement parce qu'il expose la matière même de cette deuxième génération du phantom shot et de l'image opératoire. Il expose dans ses films donc les composantes même de ces images. Donc il constate par exemple, et c'est un constat assez juste, que ces images, donc que ce soit pour préparer la guerre ou pour traiter ses effets, elles sont toujours issues d'un projet délibéré, avec d'ailleurs toujours des sommes d'argent assez importantes en jeu, et que pourtant elles frappent par leur aspect, alors boitillant, c'est le mot qu'il emploie, ou fanfaron. Et donc les Serious Games, donc cette série de 4 films, ils proposent de manière plus générale un angle intéressant sur le virtuel, parce que Farocki n'essaye pas, à aucun moment, de plaquer une ligne de causalité directe sur le rapport entre ces images et leur contexte. Parce qu'à chaque fois, dans ces films, il s'agit bien plutôt des conditions d'utilisation de ces images ou des conditions de leur fabrication plutôt que de leurs effets. Par exemple, plutôt que de chercher à établir un lien de causalité entre le virtuel, ces images de synthèse et l'environnement militaire, Farocchi préfère s'attarder sur les interfaces elles-mêmes qui filment assez longuement, comme je vais vous montrer tout à l'heure un court extrait. Donc, il s'intéresse bien plus aux interfaces elles-mêmes, il s'intéresse à la façon dont on les utilise dans le cadre de jeux de rôle. Donc, par exemple, dans Immersion, qui est le troisième film de cette série des Serious Games, on voit, c'est l'extrait que je vais vous passer après, on voit le docteur Rizzo, donc qui est un psychologue spécialiste des thérapies par système de réalité virtuelle et qui a contribué à la création de Virtual IRAC. Donc on le voit montrer aux psychologues et aux thérapeutes militaires comment utiliser cette interface, comment modifier les décors, comment introduire du son, comment introduire différentes lumières pour correspondre à la scène que va décrire le patient. Et toujours dans ce même film, à la fin, celui qu'on croit être un soldat qui raconte de manière très poignante son expérience traumatique, eh bien, s'avère être en fait un thérapeute civil dont le rôle est d'entraîner une psychologue militaire à utiliser cet environnement virtuel. Et il s'agit en fait dès le début d'un jeu de rôle, d'un entraînement, et non pas d'une véritable situation. Et donc de la même manière, donc toujours dans la même optique, Farocchi insiste aussi, là c'est dans le premier film de cette série de quatre films, donc qui s'appelle Watson is Down, il insiste aussi sur les gestes de ces jeunes soldats qui sont à l'entraînement avec ces images de synthèse, et qui sont des gestes qui sont filmés aussi assez longuement en plan fixe, et ce sont des gestes qui brouillent aussi également à leur manière toute idée de transposition directe, puisqu'en fait on a vraiment du mal à voir à quoi ils sont préparés, et comme si eux-mêmes ne voyaient pas très bien d'ailleurs ce qui se déroule à l'écran ou de quel type de préparation il s'agit. Et donc ça, je vais vous montrer aussi juste un court extrait, et les gestes de Watson, donc, qui est un de ces soldats à l'entraînement, donc, et dont l'avatar va se faire tuer au cours de l'exercice, il a un geste de dépit qui est assez indécis quand il voit qu'il s'est fait éliminer de la partie, on pourrait dire. Il a un geste qui est assez indécis, assez indécidable entre l'agacement d'avoir été celui qui s'est fait éliminer et aussi entre l'attitude militaire et finalement aussi avec toute la hiérarchie militaire qui règne entre ces jeunes soldats. Et donc finalement, ce que Farocchi donne à voir, c'est un geste très ouvert sur lequel on ne peut pas plaquer une interprétation unique. Donc je vais vous montrer maintenant les deux extraits dont je viens de parler. Donc d'abord Immersion et ensuite le premier, donc Immersion avec le docteur Rizzo. Celle-là.
We can now voilà. Start off in different places. So you're now up near where there's a palm tree grove, where there's an ambush that you can select. You can jump ahead to a relatively safe zone where there's friendlies parked by the side of the road. Up here is the start of the city ambush. Up here is where the bridge ambush can occur. And over here is a checkpoint. And there's some stuff that can go on over there as well. So you can move the person around. Okay. Now, in the next tab, that's on your next page or behind the page that you're on right now, if you're looking at this, on this side, you'll see that the visual audio events tab as well, what we will see up here in a second. And starting off, you can play around with all the different sounds. Simple bullets. They all sound the same, but in the headset, they're supposed to be somewhat different in terms of where the sound seems to be coming from. Single mortar. Multi-mortars. And you'll hear a series of, there's one that comes about 10, 12 seconds.
j'arrête là, je vous montre maintenant l'autre extrait donc, qui est dans le, cette fois dans le premier film des Serious Games, donc Watson is Down. Donc c'est le, la fin, la dernière minute.
Hey, stay up here and leave your overwatch up here. First squad.
Right.
Second squad's gonna go down to the road and we're gonna push a little farther up. Copy that, Charlie?
Yeah. This one's over down. I'm on your left side.
Alright, just stay behind me.
Behind our eyes open. 4-2 Watson just got through.
Watson's down?
Yeah, it's Watson down.
Stop, dude, don't move, don't move.
My truck is at any lobby.
Alright.
You're gonna plug that in, so we should
call. Alright,
donc voilà pour les deux extraits très courts de, du travail d'Aaron Farouki. Et en fait, cette volonté de ne pas imposer une interprétation prédonnée du rapport entre le virtuel et l'environnement réel, donc ici l'environnement militaire, eh bien cette volonté, elle est également présente à travers le montage. Donc le montage de ces films, c'est-à-dire que pour les quatre Serious Games et pour d'autres de ces films aussi, Farouki recourt au procédé de double projection, donc de split screen avec deux écrans, qui illustre en fait justement cette complication du rapport entre les images de synthèse et le réel, qui illustre le fait que ce rapport n'a pas une forme prédonnée qu'on pourrait immédiatement identifier. Donc Farouki le dit lui-même, mieux vaut assembler des montages plutôt qu'interpréter, et avec cette double projection, ce split screen, il ne s'agit pas en fait, avec ces deux écrans, de montrer d'un côté le virtuel, le réel, et donc finalement de montrer les effets du virtuel sur le réel. Mais ce qu'il s'agit plutôt de faire, c'est d'exposer des influences transversales, d'exposer des complexités, d'exposer deux circuits autonomes qui vont opérer des recoupements, mais qui ne sont pas pris dans une relation de causalité directe. C'est-à-dire que les images des deux écrans, on, là, je ne vous ai pas montré assez longtemps pour qu'on s'en rende compte, c'est surtout sur la durée, mais les images des deux écrans, elles ne se redoublent pas. On a parfois une image de l'environnement virtuel pardon, et à côté un noir, parfois deux images qui fonctionnent en même temps. Mais ces images ne se redoublent pas. On n'a pas, comme je vous le disais, d'un côté le virtuel et de l'autre les effets supposés du virtuel sur le réel, parce que ce serait une interprétation. Or, ce n'est pas le cas. Donc, Farouki propose un montage où les images se commentent. Et ce qui l'intéresse dans toute cette série de films, mais aussi dans les films Auge Machine, ce qui l'intéresse, ce n'est pas un prétendu rapport direct du virtuel vers le réel qu'il s'agirait de dégager et de mettre en évidence. Mais ce qui intéresse, c'est le commentaire des images entre elles. Alors j'en viens au second aspect du virtuel. Donc ce second aspect du rapport entre jeux vidéo et la guerre, on le trouve entre autres, c'est l'exemple que je vais prendre, donc dans une exposition qui a eu lieu au BAL cette année, entre septembre et décembre 2011, une exposition qui s'intitulait « Topographie de la guerre », et qui montrait entre autres la vidéo révélée par Wikileaks, donc intitulée Collateral Murder, où on peut voir une scène de bavure donc, commise par l'armée américaine sur des civils et des journalistes irakiens, donc, c'est-à-dire trois attaques aériennes successives. Une scène qui est filmée depuis une caméra embarquée sur un hélicoptère Apache. Et on pouvait lire sur le cartel qui présentait cette vidéo ainsi que dans le catalogue de cette exposition au BAL. On pouvait lire que les jeux vidéo sont finalement, doivent être assimilés à un processus de déréalisation. Donc, par exemple, on pouvait lire « La guerre aujourd'hui, donc pour être préparé comme pour être réparé, on passe par des processus de déréalisation que sont les jeux vidéo. » Et cette intervention du jeu vidéo, donc, dont on a pu voir un exemple avec Faroki aussi, donc cette intervention du jeu vidéo dans la préparation et le traitement du stress post-traumatique des soldats, ça aurait finalement également des conséquences dans le conflit lui-même, dans l'événement lui-même, puisque ça provoquerait une déréalisation du conflit lui-même. Dont cette vidéo Collateral Murder, selon l'axe de cette exposition, serait une preuve. Alors là encore, il ne s'agit pas pour moi de dire si c'est vrai ou faux, mais il s'agit simplement de complexifier le problème et surtout d'analyser les images qui nous sont montrées. Donc on pouvait lire aussi par exemple, donc pour vous montrer un peu plus clairement donc l'axe que choisissait l'exposition, on pouvait lire dans le catalogue d'exposition, on s'est dit avec effroi en visionnant ce document que les militaires formés dans un monde virtuel, une fois engagés dans l'action, ne peuvent réagir que comme des joueurs. En commentant leurs tirs, leurs impacts ou les mouvements sur le terrain visualisés sur l'écran, ces soldats ont beaucoup à voir avec une bande de gamins commentant leur partie jouée en réseau. On y décèle une sensibilité amoindrie à la violence. Donc, à travers cette déréalisation, à travers cette sensibilité amoindrie à la violence, à travers cette attitude de joueur, cette perte de réalité, mais aussi cette confusion entre stimuli réels et artificiels, on aurait là, selon cette exposition, un exemple de transposition directe de l'attitude du joueur vers un conflit, lui, tout ce qu'il y a de plus réel. Mais ce qu'on a, en fait, il me semble, c'est justement l'exemple d'une analyse de virtuel qui se situe au niveau des stimuli pour ensuite passer d'emblée au niveau d'un certain état de conscience, d'un état de captation, d'absorption, d'un état de déréalisation. Alors, il faut compliquer la question du virtuel. C'est-à-dire qu'il faut compliquer cette prétendue transposition directe d'une attitude propre aux jeux vidéo vers un conflit réel, en disant trois choses. Donc, tout d'abord, donc on a affaire évidemment à des images très dures, mais si on prend le lien qui est établi entre ces images prises sur le réel et les images du jeu vidéo, ce qu'il faut dire, c'est quand même qu'on a affaire à deux types d'images complètement différents dans leur structure. C'est-à-dire que dans cette vidéo, si on se situe au niveau de la structure de l'image elle-même, donc on a une vue aérienne avec un réticule de visée, donc ce qu'on peut trouver évidemment dans des jeux de tir, mais d'ailleurs plutôt dans des simulations que dans des jeux vidéo. Mais surtout, c'est le type de mouvement de la caméra dont je vais vous montrer un très bref exemple. Ce type de mouvement de caméra, c'est-à-dire des raccords qu'elle opère entre proche et lointain, sont complètement étrangers aux jeux vidéo. C'est-à-dire que dans les jeux vidéo de tir, par exemple, ou de guerre, on a généralement deux types de zoom qui sont liés à la visée avec une arme. On a un zoom moyen avec un pointeur et un zoom plus puissant si on choisit un fusil spécial avec une lunette de visée. Mais par contre, on ne trouvera jamais ce type de raccord qui se présente comme une véritable ellipse spatiale du proche vers le lointain. Donc je vous montre un exemple très rapide. Voilà, donc par exemple, ce type de raccord qu'on peut voir ici, donc dans ce court extrait, entre le proche et le lointain, c'est un type de raccord qui est complètement étranger à l'image du jeu vidéo. Donc ça, c'était un premier point. Deuxièmement, donc cette attitude de joueur qui se trouverait transposée dans le, directement dans le cadre d'un conflit réel, à mon sens, il faudrait peut-être plutôt la lier à une archéologie des attitudes guerrières, parce que c'est ce qu'on a là dans cette vidéo, et également à une archéologie des attaques aériennes, puisque c'est aussi ce dont il est question quand même dans cette vidéo. Parce que ce genre d'attitude que le catalogue d'exposition lie un peu trop vite et expressément aux jeux vidéo et aux virtuels comme déréalisation, cette violence de l'action, cette violence très forte des commentaires audio des soldats aussi, tout cela est présent évidemment dans d'autres conflits. Et d'autres conflits où on a trouvé l'idée de guerre comme spectacle plutôt que comme déréalisation, donc je pense notamment à la guerre du Vietnam. Et ça, on en trouve un exemple très frappant dans une vidéo de Chris Marker, dont je vais vous montrer un extrait aussi. Chris Marker qui nous montre une image d'archive, donc c'est un pilote des forces américaines aériennes, encore une fois, donc comme quoi il y a vraiment un lien. Donc un pilote des forces américaines aériennes qui se filme pendant une attaque, et le rapport est très évident entre ces deux images plutôt qu'entre cette image de Collateral Murder et le jeu vidéo. Donc je vous montre l'extrait. J'arrête là, mais c'était un extrait de la vidéo de Chris Marker, Le fond de l'air est rouge, donc qui à mon sens a beaucoup plus à voir avec la vidéo Collateral Murder donc que la vidéo Collateral Murder aura à voir avec le jeu vidéo. Donc c'est le deuxième point. Et troisièmement, il faut dire aussi que le jeu vidéo, ce n'est peut-être pas tant une ligne de causalité directe depuis des stimuli vers une captation de la conscience, vers une déréalisation de la réalité, mais c'est peut-être plutôt un dispositif technique qui se montre, un dispositif technique qui se donne en spectacle, et un dispositif technique qui fantasme la perception plutôt qu'un dispositif technique qui la déréalise. Et donc, pour conclure donc très rapidement, en fait, ce que cette approche, cette double approche, donc d'abord phénoménologique, puis esthétique du virtuel, donc avec perception artificielle et phantom shot, cherche à montrer, c'est qu'il est toujours nécessaire de complexifier la question du virtuel et que là où on serait tenté d'établir des transpositions directes, d'essayer en fait plutôt de construire des circuits, de multiplier les images et de les faire se recouper, de les faire se commenter entre elles. Voilà, merci de votre attention.
Merci beaucoup pour cet exposé très très riche et très intéressant. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions.
Merci, c'est plutôt un commentaire, parce que je ne suis pas sûr que dans la question des jeux vidéo, on puisse véritablement faire l'économie de la dimension perceptive, pour deux raisons. Enfin, je voudrais citer deux problèmes. Vous avez parlé de la stéréoscopie. Quand on a inventé le stéréoscope, on a demandé à Arago de l'évaluer, comme on lui demandait à l'époque d'évaluer d'autres dispositifs optiques, et il n'a jamais compris à quoi ça servait. Pour une bonne raison, c'est qu'il était amblyope. Il avait un œil qui regardait au nord-ouest, tandis que l'autre regardait au sud-est. Donc ça veut dire que la dimension de l'utilisateur du récepteur compte, déjà, et qu'on... moi, je pense, pour ma part, qu'il vaut mieux parler d'un système homme-machine dans la version. La deuxième raison est plus récente et intéressante. Les gens des neurosciences nous disent que c'est la même aire corticale qui, en matière de mouvement, pilote le mouvement, décrit le mouvement, anticipe le mouvement. Et ils s'intéressent notamment au Canada, à l'heure actuelle, à la question des jeux vidéo. Parce qu'on s'aperçoit que, qu'on le veuille ou non, lorsqu'on est dans des systèmes de type Tomb Raider, Lara Croft, etc., ben on est entraîné inconsciemment au mouvement. Alors ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que ça pose une hypothèse culturelle sur laquelle il faudra réfléchir, c'est qu'il y a des millions de jeunes depuis un certain temps qui sont entraînés au mouvement sans le savoir. Donc je crois que, et ça pose par rapport au colloque d'aujourd'hui, la question du passage du virtuel au réel. Si on est dans une problématique de système homme-machine, on a une composante véritablement matérielle et concrète qui est l'aire corticale. Donc je ne crois pas que... Enfin, je ne sais pas quelle est votre position, parce qu'au départ, vous avez eu un peu un exposé privatif, restrictif sur cette question-là. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas à prendre en considération ?
Non, mais si, bien sûr, vous avez raison. Enfin, toute l'approche phénoménologique que j'ai déployée au début, pour moi, enfin, la phénoménologie, c'est une étude de la perception, donc c'est évidemment lié. Par contre, moi, en tout cas, ça m'empêche complètement de penser, de me dire, voilà, je vais essayer de penser les rapports entre virtuel et réel. Moi, ça m'amène nulle part, personnellement, mais évidemment que c'est lié à la perception et à tout ce que j'ai dit sur les rapports entre perception et imagination. Je pense qu'évidemment, il y a beaucoup de choses à trouver vers les neurosciences. Moi, je mettrais ça aussi très volontiers en rapport avec l'image-mouvement, tout ce qu'on trouve chez Deleuze. Voilà, moi, j'aimerais opérer des recoupements donc, entre le matériel des neurosciences, mais aussi entre donc, les travaux d'artistes, les travaux de philosophes. Moi, ce serait plutôt ma méthode pour procéder, mais bien sûr, il y a la question de la perception et il y a toute la question du mouvement qui est primordiale dans le jeu vidéo.
Une autre question ?
Moi, je voudrais juste une question.
Merci. Merci beaucoup effectivement pour cette intervention qui m'a beaucoup intéressée, appris aussi beaucoup de choses. Je suis très séduite notamment par cette question en fait de l'oubli ou non du boîtier, hein, pour reprendre votre expression. Est-ce qu'il faut oublier le boîtier pour entrer dans ces images dites virtuelles ou pour prendre part à la simulation? Alors moi je serais plutôt d'accord avec vous, justement, quand vous rappelez que, justement, dans le jeu vidéo, en fait, il n'y a pas besoin d'oublier le boîtier. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin et envisager que, bien au-delà, en fait, le boîtier et au-delà, toute la gestualité, en fait, tout le rapport physique qu'on a au dispositif, et donc la perception, mais pas seulement la perception, ou disons aussi la perception à ce moment-là, tactile, motrice, gestuelle, etc., participe en fait de cette expérience hein, de la simulation, y compris d'ailleurs en termes de plaisir hein, qu'on peut prendre justement dans la manipulation. Et ça serait sans doute vrai, enfin c'est une question que je pose, je suis pas très moi-même habituée des jeux vidéo, mais ce serait vrai pour le jeu vidéo, mais ce serait vrai aussi peut-être dans les expériences qu'on voit, par exemple dans le film de Chris Marker, où il y a un plaisir de manipulation de la machine, de la machine de tir, de l'avion, de la manette. Est-ce que ça, c'est pas justement une dimension, comme vous l'avez dit, qu'on laisse tout le temps de côté en mettant en avant la déréalisation matérielle, alors que c'est sans doute fondamental dans la force de ces expériences de simulation?
Bah, vous avez tout à fait raison. C'est vrai que c'est des systèmes on-machine, et le jeu vidéo, c'est un nouveau... un nouvel état du système homme-machine. Donc on peut penser aussi à la cybernétique. Là, il y a Mathieu Triflot dans son livre Philosophie du jeu vidéo qui prend le jeu vidéo comme système homme-machine, et en quoi c'est un nouveau système homme-machine, même par rapport aux ordinateurs, aux premiers ordinateurs. Donc ça, c'est évidemment intéressant. Ce serait à mettre en lien entre le système homme-machine qui vaut dans la guerre aussi, mais au lieu de faire des liens directs, de mettre plus en regard. Et ensuite, plus par rapport à votre premier point, oui, enfin, effectivement, il n'y a pas besoin de faire oublier le boîtier, enfin, là, la console, etc. Parce que ce que ça produit, le jeu vidéo, avec ce déplacement dans l'image qui est possible, avec toute la perception motrice que ça engage derrière, et le plaisir, même de l'entraînement, etc., c'est qu'on n'est plus dans la perception, on n'est plus dans l'illusion perceptive, mais on est vraiment dans... une hallucination qui ne serait pas une déformation de la conscience, mais qui serait une hallucination construite, quoi. Et donc c'est ça qui permet en fait de ne pas avoir à faire oublier tout le dispositif technique. Est-ce qu'il y a une autre question ?
Moi j'en aurais une aussi, puisque c'est vrai que j'ai été très 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 vraiment étonnée par une image que je ne connaissais pas, une expérience que je ne connaissais pas. Et je trouve que le fait de travailler cette question du brouillage entre perception et imagination à partir d'images, de synthèses et d'images sur la guerre, moi je trouve que c'est particulièrement intéressant, parce qu'on voit là aussi une dimension vraiment politique évidente. Et pour ma part, j'avoue avoir très bien compris votre hypothèse, mais être un petit peu sceptique quand même quant à la façon d'écarter complètement, au fond, le processus de déréalisation qui, moi, en premier regard, me semble quand même parfaitement évident comme stratégie, comme volonté, et est lié à ce que vous avez appelé l'idée d'un fantasme de la perception plutôt que d'une déréalisation. Alors, ma question, c'est est-ce que vous pensez que les deux sont finalement incompatibles l'une avec l'autre, ou est-ce que vous cherchez plutôt à essayer d'articuler, ou est-ce que finalement vous écartez complètement l'idée de la déréalisation, et alors quelle serait la fonction de ce type de construction d'image si c'est pas justement la déréalisation?
Bah, la fonction, elle est ludique avant tout, donc déjà ça nous place encore sur un autre niveau, mais je rejette pas, enfin ce que je rejette avec la déréalisation, c'est la manière de faire des transpositions directes entre un objet et une situation réelle, que je trouve sur le plan de la pensée vraiment très inhibant. Et là où, quand je vous parle d'un dispositif technique qui fantasme la perception, j'aurais dû montrer des exemples, mais ça aurait été trop long. C'est par exemple, il y a un jeu vidéo qui s'appelle Doom, donc qui est un jeu vidéo en vue subjective où on tire voilà, vraiment sur des méchants, etc. Donc, c'est qu'il y a un jeu dont on a dit que c'était quand même un simulateur de meurtre de masse, quoi. Donc, bon, et en fait, quand on regarde le jeu, ça saute aux yeux que ça n'a rien à voir avec une déréalisation, que c'est vraiment pour le coup un fantasme de perception. Vous avez cette vue subjective qui se balance comme ça, comme pour imiter le mouvement de la marche, sauf qu'on reconnaît tout sauf le mouvement de la marche, avec une musique rock donc de ces années-là très forte. Et on n'a là vraiment rien de ce qui peut ressembler à une déréalisation. C'est-à-dire, ça paraît être un concept qui est complètement à côté de ce qui est en jeu. Moi, c'est ça que je...
D'accord. Alors, à ce moment-là, dernière question, qu'est-ce que vous appelez déréalisation ? Parce que pour moi, ce fantasme, je ne peux pas m'empêcher de le lier, malgré tout, à quelque chose qui va permettre de, peut-être, de comment dire, alors, pas dire déréaliser, mais de rendre finalement secondaire l'existence matérielle, incarnée, réelle de la situation. Alors, ce serait quoi la déréalisation ?
Je fais l'image télé.
Bah, la déréalisation, c'est-à-dire qu'on a, on dit il y a une confusion entre stimuli artificiels et stimuli réels. Les stimuli réels sont pris pour des stimuli artificiels, donc c'est pour ça qu'il y a une on ne perçoit plus la violence comme telle. C'est ça la déréalisation. Mais moi, ce qui me gêne, c'est qu'on applique automatiquement ce genre de concept au jeu vidéo, alors que ce qui se joue dans le jeu vidéo, c'est pas une déréalisation, mais c'est une construction de perception. Voilà, c'est ça que.
Est-ce que je. Pardon. Je voudrais ajouter une remarque, c'est pas une question. Si vous avez lu le livre à propos de Courage de Tim O'Brien qui raconte sa guerre du Vietnam, il est écrivain et en même temps il a participé à la guerre du Vietnam, un peu comme Origène Bois pour la guerre de 14. Et dans ce qu'il rapporte, il y a des soldats qui se comportent comme s'ils étaient dans un film ou dans un jeu vidéo, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, sans l'artefact, enfin sans passer par un jeu vidéo, par une machine, ils ont aussi des perceptions qui sont très non connectées complètement au réel. Et ils parlent du Vietcong de la même façon. Voilà.
Mais ça, je ne dis pas qu'il n'y a aucun lien, mais je pense qu'il n'y a pas de lien. En tout cas, la philosophie, pour moi, n'est pas là pour penser des liens directs. Là, ce serait plutôt les neurosciences ou autre chose. Et après, à la philosophie de reprendre ce matériel. Mais juste ce que je voulais dire, c'est que pour moi, il est plus intéressant de mettre en rapport, par exemple, la vidéo de Chris Marker et la vidéo de Collateral Murder, plutôt que de mettre tout de suite d'emblée en lien, sans montrer d'image de jeu vidéo, en plus dans cette exposition, c'est ça qui est plus gênant, mais plutôt que de mettre tout de suite en lien cette attitude de joueur avec une attitude de soldat.
Oui, alors, bonjour. Il faut se présenter. Donc, Dorf Zabulion, moi, je suis maître de conférence en études cinématographiques à Lille 3. J'aimerais revenir sur votre remarque, Aude, sur la dimension critique, effectivement. Alors, je pense que ce que Elsa Boyer essaie de montrer à travers aussi l'exemple de la Ronde Farocchi, c'est précisément de trouver d'autres approches critiques de ces événements tragiques dont on parle, comme les guerres, par-delà, justement, l'argument de déréalisation. Je pense que le travail de Farocchi est intéressant parce qu'il met en évidence des stratégies militaire, opératoire, où précisément, c'est vraiment le fond de sa réflexion, hein, qui est très pratique, que le virtuel et le réel sont dans des rapports de circuit, justement. Il y a des va-et-vient permanents entre ces images et le réel. Et l'argument de déréalisation que l'on trouve effectivement dans cette exposition et qu'on trouve partout, la Baudrillard ne disait pas autre chose, le gueuf n'a pas eu lieu, elle a eu lieu. Et donc c'est de renouveler, disons, l'argument critique en le rendant plus précis au niveau des usages du côté militaire. Donc, je pense que ce n'est pas le réel contre le virtuel, mais je pense que Arnaud Boinich en parlera dans l'après-midi. Ce sont des circuits. Bon, après, au cas par cas, l'intérêt d'un travail comme celui de Farocchi, c'est que ce circuit est véritablement mis en scène. Enfin, c'est pas comme ça, un circuit abstrait. On n'a pas le temps d'en parler en détail, mais cet usage de split screen, ce va-et-vient qui n'est pas redondant, qui n'est pas un rapport de cause à effet, justement, entre un virtuel et puis ses effets dans le réel, est une approche très intéressante et qui renouvelle, à mon avis, l'approche critique que l'on peut avoir par-delà la critique du spectacle, par-delà la critique un peu facile, effectivement, du jeu vidéo comme cause. Comme cause de stratégie militaire, c'est beaucoup plus complexe que cela.
Non. Alors, pas la dernière question. Peut-être pour appel à être creusé en aparté.